Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Les déchets, notre mauvaise conscience, le dégoût et le sentiment le plus souvent associé à nos poubelles, dont on cherche à se débarrasser au plus vite et qui, il faut bien l'avouer, suscite de notre part un regard plutôt négatif. À la question « qui sort la poubelle ?», peu de mains se lèvent et pourtant, ces déchets viennent bien de nous. Alors pourquoi ne pas essayer de les voir autrement en cherchant à en tirer le meilleur ? Collecter, trier, traiter, recycler. Les déchets sont notre quotidien et constituent un domaine en expansion qui a généré au fil du temps de nouvelles lois et réglementations et nécessité un travail de sensibilisation dans le but de minimiser leur impact négatif. Mais que sont ces déchets aux multiples visages? Quels en sont les dangers environnementaux et sanitaires? Ne sont-ils pas en passe de devenir la clé de voûte d'une nouvelle économie circulaire génératrice d'emplois? Sommes-nous à l'aube d'un monde zéro déchet, réalité de demain ou belle utopie? Réponse aujourd'hui sur France Culture avec Christian Duquesnois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur-chercheur à IRSTEA, Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture, physicien, spécialiste de la valorisation des déchets et auteur du livre « Les déchets du Big Bang à nos jours », un livre paru aux éditions Quae. À vos côtés, Flore Berlingen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de Zero Waste France, une association de protection de l'environnement spécialiste des enjeux de ressources et de déchets. Et vous êtes co-auteur du livre Le scénario Zero Waste, paru aux éditions Rue de l'Échiquier. Et également dans le studio en direct, Tristan Turland, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes responsable d'exploitation dans les déchets à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, et auteur du livre Les déchets, collecte, traitement, tri, recyclage, un livre édité chez Duno. Et puis en seconde partie d'émission dans les Échos de la Terre vers 16h45 en partenariat avec le service Planète Science du Monde, nous parlerons de l'interdiction de l'utilisation des pesticides dans les collectivités locales et dans les lieux publics, interdiction effective depuis le 1er janvier 2017 et nous recevrons François Veillerette, directeur et porte-parole de Génération Future et Nicolas Devers, directeur adjoint des services techniques du Grand Paris Seine-Ouest. Les déchets, bonne ou mauvaise conscience, est le sujet du jour. Émission préparée par Catherine Donnet et Lucille Valérie, réalisée par Alexandra Malka, avec aujourd'hui à la technique, Élise Leu. Bonjour à tous, bienvenue.
L'horizon de Morissette se réduit à Levallois-Perret. Je l'ai rencontré là, à la tombée de la nuit, au détour d'une poubelle.
Voilà.
Elle tenait un petit magasin de fleurs, pas loin d'ici. Son mari est mort depuis des années.
Bonsoir.
Morissette vit seule avec sa toute petite retraite et ses fins de mois difficiles.
J'adore récupérer dans les poubelles parce qu'il y a des choses intéressantes que j'ai jamais eues. Ça me distrait et en même temps, ça me fait un peu d'argent.
Elle a hésité à m'emmener à Saint-Ouen, sous le périphérique parisien. C'est le seul marché autorisé pour ces vendeurs d'objets ressuscités, pour ces déchets réhabilités. Ces hommes et ces femmes, on les appelle les biffins.
Vous voulez quelque chose ? 3 euros. Au début, j'étais très stressée parce que je trouvais ça triste à pleurer. On a l'impression qu'on vient vendre parce qu'on n'a même pas de quoi manger, quoi.
Extrait du film Le Peuple des Ordures d'Olivier Volarchik, diffusé en 2010. Et oui, les biffins, ces premiers recycleurs de déchets, finalement, alors mus par le besoin de vivre. Finalement, quand on parle de déchets, concrètement, on parle de quoi, Christian Duquesnois?
Quand on parle de déchets, il faut bien comprendre que c'est une notion qui est très relative. Sur les atomes et les molécules qui constituent la matière de nos déchets. Il n'est pas écrit déchets et ça dépend. On devrait définir les déchets de qui ou de quoi. On se rend compte quand on regarde des systèmes naturels comme les écosystèmes qu'on peut avoir un certain niveau d'organisation des organismes qui produisent des déchets, ce qu'on appelle les déchets métaboliques. Et quand on passe à un niveau supérieur d'organisation, le système lui-même ne produit pas de déchets parce que tout est recyclé à l'intérieur du système. Donc
oui, parce
c'est vraiment, il faut associer toujours le mot déchet à qui le produit.
Et oui, ces déchets qui sont des traces du vivant aussi. Hein. On le voit dans votre livre, on ne pourra pas parler de tout, mais il y a tout ce pan aussi de l'histoire scrutée donc, par les archéologues, hein, ces déchets, par les historiens et puis par la science. Et aujourd'hui, il y a quand même différentes catégories, Tristan Turlan.
Oui, alors, pour le grand public, puisqu'on s'adresse principalement à eux, le déchet se traduit souvent par les ordures que nous produisons. On va noter que les ordures ménagères et les recyclables sont la majorité des déchets visibles de notre société. Bon, il existe cependant une multitude de déchets liés à toutes les activités humaines et toutes les activités économiques qui nous entourent. Donc pour consommer, il faut créer du déchet. Et quand nous consommons, nous recréons du déchet. En fait, on a du déchet...
Avant et après.
Avant et après. C'est inévitable.
Et parmi ces déchets, il y a les recyclables et les autres. Alors, on va beaucoup parler des déchets solides, mais en même temps, il ne faut pas oublier, il y a aussi les émissions gazeuses, les eaux usées. Hein, on les oublie souvent, Christian Duquesnoy.
Oui, c'est des quantités considérables. Pour reprendre l'exemple des déchets ménagers, hein, c'est uniquement 4% des déchets solides que l'on produit en France chaque année. Et à ces déchets solides, on pourrait effectivement, comme vous le dites très bien, rajouter les eaux usées et les émissions gazeuses qui sont eux aussi des sous-produits de nos activités industrielles, agricoles, domestiques.
C'est ce qui explique aussi qu'on trouve finalement des chiffres différents. Moi, j'ai pu lire que les Français produisaient 12 tonnes de déchets par an et ailleurs 370 kilos. Alors, les 370 kilos, ce sont uniquement les ordures ménagères, hein, Flore Beringen.
Oui, voilà. Et en fait, les 12 tonnes, elles se cachent derrière ces 370 kilos. Parce qu'en fait, le déchet qui est dans notre poubelle, c'est la face émergée d'un iceberg de déchets qui se situe en amont. Lors du processus de production de tous les objets qu'on finit par jeter. Et donc ces 12 tonnes, on les trouve là.
Alors je disais les meilleurs déchets et puis les pires. Les meilleurs, ce sont les recyclables, ceux qu'on peut, à la rigueur même, si on a un bout de jardin, transformer en compost. Et puis les pires, Flore Beringen, les déchets nucléaires.
Oui, effectivement, il y a ceux qu'on ne sait pas traiter. Mais moi, je voudrais revenir quand même sur les moins pires parce que malgré tout, même un déchet recyclable, il reste un déchet et il reste une consommation de ressources, de matières premières, d'énergie, d'eau qu'on aurait pu éviter dans la plupart des cas. Donc même s'il est recyclable, c'est pas non plus la panacée parce qu'on n'est pas dans un système complètement circulaire, à part effectivement pour les déchets organiques qu'on peut composter. Et là, on est dans un cycle parfait ou quasiment parfait, mais pour toutes les autres matières, c'est pas le cas. Donc, avant de penser recyclage, il faut surtout penser réduction.
Et ça, on va y venir au fil de l'émission, justement. Progressons pour faire prendre conscience, et effectivement, de cet état des lieux. Quels déchets, quelle masse, et puis de quelle façon est-ce qu'on peut réduire, voire même ne plus produire certains déchets avant la consommation. En tout cas, ces déchets sont générés par un monde de plus en plus moderne et de plus en plus producteur, consommateur, et c'est ce qui explique bien évidemment ces chiffres astronomiques.
Mon voyage à la rencontre du peuple des ordures à travers le monde m'entraîne au Ghana. On dit que c'est la poubelle de l'Occident, que la plupart de nos déchets électroniques arrivent ici. Plus de 90 000 tonnes par an. Au début, je n'ai vu qu'un port, habité par ses containers et ses douaniers. Un port où l'on déverse chaque jour des milliers de cartons avec des objets de toutes sortes. Ordinateurs, fer à repasser, chaîne IFI, on trouve de tout ici. Les télés sont particulièrement prisées sur le marché de la seconde main. Bernard est une sorte de notable de la récup, un des plus gros revendeurs du coin.
Si on parle d'une télé, par exemple, que vous considérez comme un déchet. Ok, vous dites que c'est un déchet parce que la télé ne marche pas. Mais moi, je peux vendre cette télé qui ne fonctionne pas. Donc c'est un business pour nous. Nous, on voit ça comme un business et vous comme un déchet. C'est vice-versa, c'est ça.
C'était un nouvel extrait du film Le peuple des ordures d'Olivier Vlodarczyk. Ce déchet, justement, il peut pour l'un devenir la ressource pour un autre, finalement, tant dans le monde animal, végétal, hein, dont vous parlez dans votre livre, Christian Duquesnoy, mais également pour l'homme. Donc le déchet de l'un peut devenir la ressource de l'autre.
Oui, c'est bien l'illustration du fait qu'un déchet, c'est relatif. Hein, ça peut être... Alors, il y a une phrase en anglais qui dit « one man's Trash is Another Man's Treasure, qui est en fait, qui pourrait se traduire, je crois que nos cousins québécois l'ont traduit par la poubelle d'un homme, peut-être le coffre au trésor d'un autre homme. Par contre, il faut faire attention aux conditions dans lesquelles les autres hommes vont utiliser ces déchets, vont les recycler. Hein. L'exemple du Ghana est vraiment très significatif. On pourrait imaginer que c'est une bonne chose, finalement, que des gens travaillent à récupérer nos déchets et à les transformer en ressources, mais c'est souvent dans des conditions qui sont très dangereuses pour les gens qui y travaillent. Hein. On fait brûler les cartes mères des ordinateurs pour récupérer les métaux, pour récupérer du plastique. Il n'y a aucun équipement de protection individuelle pour les gens qui y travaillent, et puis les fumées partent dans l'atmosphère. Et c'est, donc le recyclage, attention aussi aux conditions, et tout ce qui concerne d'ailleurs le traitement des déchets, attention aux conditions et attention à l'impact de cette activité de traitement des déchets sur l'environnement.
Sur d'autres pays, sur la santé publique d'une manière générale, alors dans nos pays modernes, mais également dans ces pays qui nous servent de poubelles à ciel ouvert. Fleur Berlingen, c'est tout le problème d'une société du jetable. Mouchoir en papier, sac et bouteille en plastique, rasoir jetable, lingette. Finalement, la modernité a créé des objets pour, dit-on, nous faciliter la vie, en même temps en produisant justement ces poubelles plus difficile à gérer. Et puis l'évolution d'une société high-tech, hein, on en parlait à l'instant avec Christian Duquesnoy, avec justement le recyclage par exemple, les microprocesseurs, les ordinateurs, le reste. C'est vrai que tout ça génère des composants polluants, pas toujours faciles à évacuer ou à recycler. Dans une société où, est-ce qu'on peut dire que le danger, c'est l'obsolescence organisée ?
On parle beaucoup d'obsolescence programmée. Effectivement, obsolescence organisée, c'est intéressant parce que c'est peut-être plus large. Finalement, parce que l'obsolescence programmée à laquelle on pense en premier, par exemple, l'imprimante qui tomberait en panne au bout d'un certain nombre d'utilisations, c'est un peu symbolique. C'est pas forcément le cas le plus fréquent. Enfin, bien sûr, ça existe aussi, mais finalement, le cas le plus fréquent, c'est l'envie de renouveler un équipement parce que on a été aussi soumis à une pression publicitaire et qu'on a de nouveaux besoins qui sont créés ou qui nous sont imposés d'une certaine manière. Et ça, c'est ça la vraie obsolescence finalement. C'est celle qui nous incite à renouveler toujours plus rapidement les objets qu'on utilise.
Même s'il faut bien avouer que si quelqu'un a envie de faire réparer du jour au lendemain ou assez rapidement, ou un frigidaire qui tombe en panne, ou une télé, etc., etc., c'est vrai qu'on se rend compte qu'on peut trouver les moyens, mais les délais sont tellement longs que c'est dans ce sens-là qu'on a le sentiment que tout est organisé pour finalement pousser à l'achat.
Les délais, le prix, et oui, il y a plein d'éléments qui font qu'en tant que consommateur, même citoyen, eh bien, la plupart du temps, on fait l'arbitrage qui n'est pas le plus intéressant d'un point de vue environnemental. Mais c'est pour ça qu'il faut s'organiser aussi collectivement pour faire pression sur un certain nombre de réglementations et de leviers incitatifs pour que l'équilibre économique il se déplace en fait. Parce que aujourd'hui, pourquoi ça coûte moins cher de renouveler ? Parce que le coût environnemental et le coût social, il n'est pas intégré dans le prix du nouveau produit. Donc on est dans une situation qui est un petit peu faussée. Il faut rétablir l'équilibre pour que les incitations aillent dans le bon sens et qu'on puisse faire un choix en toute bonne conscience.
Et même si, on le mettra bien sûr sur le site de l'émission, même si aujourd'hui, finalement, il y a des réparateurs et des moyens de faire réparer, ça commence à venir, il y a une vraie prise de conscience parmi des jeunes qui montent des startups ou qui en tout cas proposent ces services-là pour éviter la surconsommation et puis ces ordures qui s'accumulent.
C'est un secteur très dynamique, effectivement.
Tristan Turlan, bien sûr, cette industrie et l'ultra consommation et la société qui progresse, qui se modernise, ça a aussi généré une industrie du traitement des déchets. Donc, à chacun sa collecte, hein, son traitement, son tri, son recyclage. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux en France, concrètement, où on en est? Chacun, à peu près, est habitué à gérer ou trois poubelles de couleurs différentes, hein, même si dans certains quartiers, ou même de Paris, c'est pas encore le cas. État des lieux vraiment de, aujourd'hui, comment on traite les déchets en France?
Alors aujourd'hui, vous avez les ordures ménagères, si oui. On se place toujours dans le cas du grand public, qui produisent des ordures ménagères qui sont collectées, ça sur tout le territoire français, on va dire sans aucun souci. C'est quelque chose qui est passé dans une routine, on va dire presque parfaite. Après, il y a eu l'apparition de la collecte sélective depuis 1992, qui nous a générer en fait une nouvelle collecte pour tous les, alors pour résumer, pour les emballages, les bouteilles plastiques, carton, boîtes de conserve,
le verre
également, tout ce qu'on peut recycler, on va dire facilement, et que les ménages mettaient dans leurs ordures ménagères. Donc aujourd'hui, on va parler de deux flux principaux, les ordures ménagères et les recyclables. Et donc c'est sur ces recyclables-là qu'aujourd'hui la France est, on va dire depuis un grand nombre d'années maintenant, est organisée. Donc on arrive à collecter ces flux correctement, directement chez l'habitant, on va dire au plus près de là où c'est produit, pour ensuite les amener vers des centres de traitement, déjà de tri, et ensuite les redisperser vers des centres de traitement. La collecte sélective n'est pas au même point sur tous les territoires de France. Ça, faut en être conscient. C'est une réalité. Des fois, c'est pas faute de vouloir le faire. C'est la mise en place d'un système sur certains territoires qui est beaucoup plus compliqué. Donc jusqu'à présent.
Et en même temps, si vous dites que depuis 1992 ça a été lancé, c'est vrai que on est en 2016. Le temps est long.
Le temps est long.
Est-ce que c'est faute de moyens ou faute d'envie, concrètement?
Plutôt prise en compte du problème et son application. Vous avez des territoires ruraux qui viennent de s'équiper de collecte sélective il y a à peine quelques années pour les derniers. Donc ça, c'est un fait.
Ce sont des coûts qui pèsent sur les petites municipalités, les petites communes, c'est ça?
Voilà, les collectivités donc prennent en charge ces coûts nouveaux. Pour donner l'exemple parisien, vous avez la ville de Paris qui n'était pas équipée de centre de tri depuis toujours. Et en fait, le dernier centre de tri, ces dernières années, en fait, la ville de Paris a pu s'équiper d'un centre de tri pour que les recyclables des Parisiens puissent être triés. Donc c'est quelque chose de nouveau. Donc pour la capitale française, c'est...
Oui, ça fait quelques années quand même.
Ça fait quelques années, mais c'est arrivé bien tard. Pour l'exemple, c'est arrivé un peu tard.
Ah oui.
Voilà, c'est juste un peu...
Oui, on ne soupçonne pas forcément, effectivement, ce genre de situation dans la capitale. Christian Duquesne, pardon.
Si vous permettez, oui, j'aimerais ajouter aussi un troisième flux qui est en train d'émerger, qui est celui des biodéchets.
Oui.
Qui doivent être déjà de façon réglementaire collectés par les industries agroalimentaires. Enfin, les biodéchets, alors... Petite précision, et c'est tous les déchets qui sont originaires du vivant, hein, bio, c'est le vivant. Donc par exemple, dans notre poubelle, ça va être les épluchures, les reliefs de repas, etc. Il y a obligation maintenant pour des restaurations collectives qui produisent une certaine quantité de ces biodéchets de les trier et de mettre en place une collecte spécifique pour ces biodéchets en vue de leur valorisation. Et dans la loi de transition énergétique, il est inscrit un objectif pour 2025 en France, c'est que de mettre en place la collecte sélective des biodéchets pour les ménages sur la totalité du territoire, toutes les collectivités, d'ici 2025.
C'est le tri à la source des biodéchets qui va devenir obligatoire et qui peut se traduire par une collecte séparée. Et ça, c'est ce qu'on préconise, nous, en tant qu'association de protection de l'environnement, mais qui doit être complémentaire aussi avec des dispositifs de compostage locaux. Par exemple, des composteurs individuels pour, évidemment, tous les foyers qui ont un jardin à leur disposition, ou des composts collectifs de quartier pour les milieux plus urbains, voire même distribution de lombricomposteurs pour ceux qui voudraient faire du compost en appartement. Après, la collecte séparée reste complètement complémentaire en fait à ces dispositifs in situ.
Et on peut rajouter aussi d'autres techniques au compostage, hein. On a la méthanisation qui émerge aussi et qui est maintenant une technologie de plus en plus utilisée. Donc produire du gaz naturel, en fait, le méthane.
Le biogaz, hein?
Voilà, le biogaz. Ça, le biogaz, c'est du méthane plus du dioxyde de carbone, puisque c'est des gaz qui sont produits par des micro-organismes qui vont dégrader les déchets en absence d'oxygène, hein, contrairement au compostage où la transformation se fait en présence d'oxygène. Et puis des technologies qui sont au stade de la recherche, qu'on appelle la bioraffinerie environnementale, qui pousse un peu plus loin ces techniques-là encore, pour faire produire aux micro-organismes des molécules qui peuvent intéresser la chimie verte, par exemple.
Donc ça, finalement...
Des molécules qu'on appelle plateforme, pardon.
Oui, c'est tout un travail scientifique en cours, expérimental aussi, ou alors on commence vraiment à implanter ça et ça va fleurir. Voilà, état alors, des lieux un petit peu de cette situation qui semble effectivement assez idéale.
La méthanisation, ça existe, ça marche pour un certain nombre de déchets, en particulier les déchets de l'agriculture. Ça marche aussi, alors depuis plus récemment pour les biodéchets des ménages, par exemple, parce qu'on a des mélanges un petit peu plus complexes. Et puis, on en est au stade de l'expérimentation pour des expériences de micro-méthanisation. Donc, plutôt qu'avoir des installations qui vont traiter des centaines, des milliers de tonnes chaque jour auprès d'industriels ou de producteurs agricoles, on a des solutions qui commencent à émerger pour des petites collectivités.
Vous parliez, Fleur Bellingen, de possibilité de faire du compostage dans les appartements. En même temps, c'est vrai que je disais au début d'émission, les déchets, c'est quand même associé souvent à froncement de nez, quoi, le côté négatif, les odeurs. Mais comment est-ce qu'on gère ça dans un appartement ?
Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire mon voisin Christian Duquesnoy. Il a parlé de la partie high-tech, hein, méthanisation. Oui. Moi, j'aime bien revenir sur les avantages aussi du compostage qui est très low-tech, c'est-à-dire... C'est une technique finalement qui existe depuis la nuit des temps, mais qu'on peut appliquer à tous les niveaux individuels. On va y revenir tout de suite, promis. Mais aussi à très très grande échelle. Par exemple, les biodéchets, les déchets organiques de la ville de San Francisco sont tous traités en compostage sur une grosse plateforme à l'extérieur de la ville, bien sûr, et qui alimente du coup toute une zone agricole et qui permet de réenrichir les sols qui en ont bien besoin, les sols agricoles, et puis qui permet aussi de lutter contre le réchauffement climatique, parce que le fait de mettre du compost sur les sols permet d'augmenter leur capacité à stocker le carbone. Il y a plein d'avantages, en fait, qu'on est juste en train d'étudier scientifiquement maintenant, alors que la technique, elle existe depuis toujours. Donc c'était pour faire un petit
complément. Non, puis c'est important, parce qu'effectivement, vous avez raison de le préciser, il y a quand même ces deux mondes, c'est-à-dire le monde de notre quotidien, nous, citoyens, dans nos foyers, Et le geste qui peut être le nôtre, en sachant que bah aussi c'est un geste citoyen spontané, de la même façon que quand on ne jette pas dans les poubelles les piles, les ampoules, etc. Voilà, ça participe d'un geste citoyen. Et puis il y a toute cette masse de déchets, beaucoup plus importante que les déchets ménagers générés par l'industrie.
Ouais. Et donc pour le compostage au niveau individuel, là on bascule en fait d'un déchet qui nous paraissait sale, parce que mélangé aussi aux autres dans la poubelle, à un déchet, un biodéchet qui en fait est propre quand on le sépare à la source, c'est-à-dire juste après la phase épluchage, et qu'on le met dans un lombricomposteur, composteur, il n'y a pas d'odeur. C'est important de le préciser. Oui. Et puis surtout, on est face à un petit écosystème qu'on voit fonctionner et on voit tout de suite l'impact que ça peut avoir après quand on utilise pour ces plantes vertes dans l'appartement. Mais surtout, on voit l'écosystème en marche.
La fabrique du terreau, finalement.
Et donc, il n'y a plus rien de sale et il n'y a plus rien de repoussant là-dedans.
Et ça change l'image du déchet.
C'est un changement qui est très important et il y a un effet très, très symbolique, effectivement. J'ai des collègues à IRSTEA à Rennes qui ont montré que quand on mettait en place un programme de compostage collectif, local, les gens s'investissaient et changeaient leur regard sur leurs déchets à tel point que ça rejaillissait aussi sur le tri des emballages, par exemple, qui était du coup beaucoup plus intense, beaucoup plus efficace, parce que les gens regardent leurs déchets différemment, se responsabilisent et puis cessent de voir ces déchets comme quelque chose qu'on veut voir loin de soi, qu'on glisse sous le tapis.
Qu'on ne veut pas voir, finalement. Allez, le côté positif est là, on va continuer à en parler. Auparavant, je voudrais quand même vous faire écouter ce document. C'est un reportage qui a été diffusé sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'était le 16 avril 2015. Et donc, il s'agit de la décharge de Balançan.
En 40 ans d'exploitation, plus de 10 millions de tonnes de déchets ont été ensevelis dans cette décharge. La poubelle à ciel ouvert d'une centaine de communes du Var. Avec le temps, l'étanchéité des casiers les plus anciens s'est fragilisée.
La pollution provient du site 1 qui est dépourvu de protection à sa base. Étant donné qu'il n'y a pas de protection, l'entassement des déchets provoque des pollutions, des jus, des percolations, qui, sous pression du nouveau site actuel, qui lui a les protections suffisantes, mais permet des écoulements de pollution avérés.
En novembre dernier, un liquide toxique noir de la lixivia s'est écoulé dans les rivières avoisinantes. Une pollution constatée et enrayée par l'exploitant du site.
Immédiatement, une demi-heure après avoir été averti, Nous avons cantonné les eaux à l'intérieur du site, nous les pompons depuis et vers les stations d'épuration que l'on a, dont on a doublé la capacité. Et vous voyez maintenant les travaux, pour ne plus que ça recommence, qui sont des travaux de drainage, sont en cours.
La pollution détournée et traitée dans un bassin de stockage de la décharge ne suffit pas à rassurer les associations écologiques qui dénoncent les conséquences de ces rejets sur l'environnement.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Tristan Turlan, je vous fais réagir sur ce document parce qu'on l'a bien compris, en France, la situation n'est pas encore idéale. Loin de là, il y a des points noirs, des lieux de la honte, peut-être même on peut en parler. C'est assez étonnant, hein. C'est vrai qu'on a longtemps donc caché, enfoui les déchets. On a tous souvenir ou de décharges à ciel ouvert, etc. Source de pollution environnementale, de désagréments, les jus de décharge. Mais finalement, ça existe encore.
Alors, l'exemple que nous venons d'entendre, oui, c'est le pire qui puisse arriver. Et il parlait bien d'un casier ancien d'un centre d'enfouissement.
Oui.
Donc ça, c'est une situation qui existe dans de nombreux centres d'enfouissement, anciens, je précise. Aujourd'hui, dans les nouveaux centres d'enfouissement que l'on a sur tout le territoire français, les choses fonctionnent mieux. On a quand même des protections assez énormes. Alors, des protections géologiques, déjà à base d'argile, qui permettent d'étancher les sites. Et ensuite, on a des protections avec des géomembranes, géotextiles, qui limitent la sortie de ce qu'on appelait les jus.
Oui.
Donc les lixivia qui sont émis par la détérioration et la dégradation des ordures.
Oui, donc, ce sont des obligations réglementaires.
Oui, Christian Duquesnoy.
Voilà. C'est des obligations réglementaires. Hein. C'est, oui, pas laissé à la liberté de l'exploitant. C'est des choses qui sont imposées par la réglementation et contrôlées par des inspecteurs des installations classées.
Sauf que le dernier projet de recherche sur la durée de vie de ces géomembranes qu'on met au fond des décharges, en 2013, a conclu qu'on ne pouvait pas démontrer, enfin, on ne pouvait pas calculer la durée de vie de ces membranes et qu'on ne pouvait pas démontrer qu'il n'y aurait pas de fuite. Et toutes ces installations, même les plus récentes, elles vont devenir anciennes à un moment ou à un autre. Et aujourd'hui, on continue à mettre des déchets dans des décharges sans savoir, en fait, combien de temps ça va rester étanche.
Donc ce sont des pansements, finalement.
Alors, 236 voilà, décharges à ciel ouvert aujourd'hui en exploitation en France.
En France.
Alors, pour revenir sur un certain nombre
et on reviendra
de points,
une
décharge à ciel ouvert, oui, pendant l'exploitation. Pendant l'exploitation, la décharge est ouverte parce qu'on continue à émettre des déchets. Et pendant l'exploitation, ben, on récupère ces fameux lixivia dans le fond des centres de stockage sur des géomembranes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui passe. Je ne suis pas un défenseur à tout craint de ce type de technologie, même si j'y ai longtemps travaillé. Il y a des possibilités de fuite, c'est vrai. Elles sont limitées et surveillées. Hein. Il y a des piézomètres à l'aval hydraulique de ces sites pour vérifier. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on voit que les sites anciens qui ne sont pas protégés fuient. Donc il y a une partie à ciel ouvert, mais à la fin de l'exploitation, la décharge est couverte avec ce qu'on appelle une couverture étanche qui permet de récupérer en particulier les biogaz qui va aussi limiter l'arrivée, l'entrée des eaux de pluie dans le site et qui va permettre de récupérer le biogaz. Ce qui se fait actuellement de plus technologique dans le domaine de la décharge, c'est ce qu'on appelle une décharge bioréacteur qui va essayer d'accélérer la dégradation des déchets, un petit peu comme dans un méthaniseur, pour essayer de stabiliser le plus rapidement possible cette masse de déchets, la minéraliser le plus rapidement possible et la rendre le plus rapidement possible, alors non pas inerte, mais moins active qu'au départ. Mmh. Et tout ça pour essayer effectivement de rendre compatible cette durée de dangerosité de la décharge avec une durée de vie estimée de ces barrières en fond. Effectivement, il est difficile de montrer des chiffres de durée de vie de ces géomembranes en particulier. On a longtemps parlé de 300 ans, 400 ans. On observe quand même que 30 ans, ça semble être quand même très raisonnable pour qualifier la durée de vie de ces géomembranes et que c'est un minimum raisonnable. Et donc, le but, c'est de stabiliser les massifs de déchets avant cette période de 30 ans.
Tristan Turlan, donc sur toutes ces questions-là, parce que vous êtes au contact, hein, on imagine des municipalités, etc. Comment ça se passe on dit 30 ans ou 300, on ne sait pas trop. On sait qu'il y a ce problème-là. Alors, et dans un pays en France où assez conscient quand même de ce qu'il faut faire, ou en tout cas poussé par la nécessité de réagir, mais le temps passe.
On fait des choses en toute conscience et avec les informations dont on dispose aujourd'hui. Il faut, ouais, bien le rappeler. Peut-être que dans 20 ou 30 ans, on dira que ce qu'on a fait n'était pas suffisant. c'est possible. Comme on dit aujourd'hui, ce qui a été fait dans les années 60 concernant les décharges n'était pas suffisant. Donc il y a toujours un recul par rapport à la technologie dont on dispose au moment où on le fait. Donc juste pour les géomembranes, effectivement les durées de vie, alors, elles auraient quelques dizaines d'années, mais il y a quand même une barrière géologique qui est composée d'argile très imperméable en dessous de tous les sites qu'on a construits depuis maintenant peut-être une trentaine d'années. Donc on a quand même une deuxième protection en cas de fuite. Voilà, ça rassure pas tout le monde,
mais il faut quand même être conscient que
c'est une protection importante avec des matériaux argileux. Et aujourd'hui, dans l'état des connaissances actuelles, c'est ça.
C'est ce qui est mis en place en France.
C'est ce qui est mis en place et ce qui est quand même très surveillé. Un centre d'enfouissement n'est pas laissé, comme on disait tout à l'heure, sans surveillance.
Même si effectivement, on voit qu'il y a ou des accidents ou des problèmes, etc.
Il y a des accidents, ça peut arriver. Oui. Après, on peut le corriger, il n'y a aucun souci. On parlait de décharges à ciel ouvert. Alors ce mot-là, moi j'ai exploité des centres d'enfouissement, le mot ciel ouvert, attention, la majorité des centres d'enfouissement actuels sont soumis à des règles qui sont décrites dans un arrêté préfectoral, et en général, aujourd'hui, les grandes décharges ont 2 à 3 000 mètres carrés d'ouverture, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une exploitation sur 2 à 3 000 mètres carrés de déchets qui sont à l'air libre, et qu'il faut recouvrir en général chaque fin de semaine, pour limiter les nuisances olfactives, les envols de déchets. Donc on essaie quand même de réduire les impacts de ces installations.
En sachant qu'on connaît cet état des lieux et que, à la rigueur, même si, effectivement, on a bien compris, on ne sait pas trop pendant combien d'années le système peut tenir, le principe de précaution pourrait être aussi une politique appliquée. On va en parler juste après, et justement après cette pause musicale choisie par Alexandra Malka, Music, Les Écailles.
J'entends les criquets, les cigales. On n'est plus très loin du littoral. Le soleil est à la verticale sur la voie ferrée horizontale. J'entends soudain le signal. Je vois la barrière transversale. J'appuie comme un fou sur la pédale. L'être arrive comme une rafale. Je sens que je me tire. Je sens que je me taille. Je perds mon écorce. J'enlève mes écailles. Je sens que je me tire. Je sens que je me taille. Je perds mon écorce. J'enlève mes écailles.
Sec, les écailles de cause à effet, suite de notre émission en direct sur France Culture, consacrée aujourd'hui aux déchets et à leur avenir. Nous sommes avec Christian Duquesnois, ingénieur-chercheur à IRSTEA, Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture, avec Flore Berlingen, directrice de Zero Waste France, association de protection de l'environnement spécialiste des enjeux de ressources et de déchets, et Tristan Turlan, responsable d'exploitation dans les déchets, à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Et puis je vous rappelle que dans un quart d'heure, dans les Échos de la Terre, nous parlerons de l'interdiction de l'utilisation des pesticides dans les collectivités locales et dans les lieux publics depuis le 1er janvier 2017.
Au milieu des arbres de la forêt des Landes, un atelier de production de meubles. L'association Happy Up y fabrique tout en bois. Pourtant, les meubles sont faits à partir de palettes usagées. Elles sont récupérées auprès d'une trentaine de chefs d'entreprise de la région, comme ce directeur d'un magasin d'électroménager qui veut éviter tout gâchis.
Mon objectif, c'est que toute la matière qui n'est pas réutilisée dans mon magasin doit absolument trouver une vocation pour être réutilisée.
Pour l'association, une matière première au coût compétitif.
C'est un apport volontaire, donc c'est gratuit.
À l'origine de ce projet, Valérie Fernani. Dans cet atelier qu'elle a créé il y a 2 ans, les palettes sont démontées, découpées et poncées.
Ensuite, elles vont passer à l'assemblage dans cet atelier-là, où nous allons pouvoir assembler et finir les meubles.
Et donc on arrive à faire des meubles solides avec du bois recyclé.
Tout à fait. L'essentiel, c'est d'avoir du bon bois à la base et d'utiliser des savoir-faire traditionnels pour faire des beaux meubles.
Transformer des déchets en produits de meilleure qualité, c'est le principe du surcyclage, ou upcycling en anglais. Une démarche écologique et créatrice d'emplois. 6 personnes embauchées en CDI, plus 12 emplois d'insertion.
Reportage diffusé sur France 3 National dans le 19-20, le 3 février 2016, et donc sur cette association Happy Up, le upcycling de palettes en bois. C'est intéressant hein, pour voir de quelle façon est-ce qu'on peut changer aussi notre regard sur ce monde des déchets. On l'aura compris dans la première partie de l'émission que les décharges, notamment à ciel ouvert, même si on a, il y a une façon de les couvrir, ce n'est pas la panacée. C'est idéalement, il faudrait que ce soit temporaire et qu'on puisse imaginer autre chose. Donc, autre chose, c'est peut-être aussi à travers ce recyclage. Flore Berlingen, peut-être une réaction sur ces initiatives et le fait que les déchets sont des sources d'emploi et peut-être une clé de voûte aussi d'une nouvelle économie circulaire.
Oui, là, ce qui est très intéressant dans l'exemple d'Happy Up, c'est qu'on est dans une démarche d'upcycling. On n'est pas dans simplement du recyclage, on est surtout dans la réutilisation en fait directe de matériaux. Et puis, on est aussi dans une démarche qui est de la production en série et pas juste une démarche de récupération un peu artistique, même si c'est très chouette aussi les démarches dans ce sens. Là, on est sur de la production en série distribuée par la CAMIF. Je ne sais pas si on peut les citer, mais en tout cas,
c'est fait.
Du coup, c'est important.
De toute façon, ça en incitera d'autres à la rigueur.
Voilà, ça en incitera d'autres et c'est important parce que du coup, ça veut dire que c'est accessible. C'est une consommation aussi qui est accessible, qui devient accessible à tout le monde.
Oui.
Et pas juste à certains privilégiés qui auraient accès près de chez eux à une petite boutique de proximité. Non, là, on est dans de la production en série et dans de la distribution à grande échelle. Et du coup, ça change tout parce que ça veut dire qu'on peut réellement imaginer que l'ensemble de notre consommation, elle suit cette direction-là.
Christian Duquesneau, on peut rappeler aussi la définition de l'économie circulaire, hein, que c'est un concept apparu dans les années 2000, avec la prise de conscience aussi des enjeux climatiques. Donc il s'agit de produire des biens et des services avec des méthodes qui ne recourent plus aux matières premières et aux énergies non renouvelables, hein, c'est ça ?
Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est un concept qui est même un petit peu plus ancien que ça. On commence à trouver des traces dans les années 70, hein, de gens qui travaillaient dans le domaine de ce qu'on appelle la bio-inspiration ou l'éco-inspiration, qui est se servir du vivant comme d'un modèle, et de regarder comment fonctionnent les écosystèmes, et justement ces écosystèmes qui finalement, même si à l'intérieur du système il y a plein d'organismes qui produisent plein de déchets, eh bien l'écosystème lui-même n'exporte pas de déchets parce que tout est recyclé par la grande famille des recycleurs, des organismes recycleurs à l'intérieur du système. Et si, on pourrait même pousser plus loin cette comparaison entre les systèmes humains et les systèmes économiques, industriels humains et les écosystèmes naturels. Dans les écosystèmes naturels, on estime que sur l'ensemble de la planète, sur l'ensemble des écosystèmes planétaires, les recycleurs, ça représente à peu près 30% de la biomasse. On est loin de 30% d'emploi dans le domaine du recyclage en France.
Oui, même si on peut donner des chiffres hein, sur les 15 milliards de déchets produits donc chaque année dans le monde, hein, c'est ça. La part recyclée, je crois que c'est 49% en Union européenne et 4% valorisés énergétiquement par l'incinération.
Oui, c'est à peu près ça. Et puis quand on regarde les emplois en France, les emplois du traitement des déchets, hein, pas uniquement du recyclage, mais du traitement des déchets, c'est à peu près 0,5% des emplois salariés et non salariés. On a une marge de progrès, un réservoir d'emplois gigantesque.
Tristan Turlan, sur cette question-là du recyclage, parce que ça part aussi quand même, ces produits recyclés sont forcément récupérés. Alors ensuite, pourquoi pas pour fabriquer des meubles, etc. ou autre, mais dans le traitement, justement, collectif.
Voilà, les... Les recyclables émis par les ménages, si on parle en premier de ce type de déchets, oui, sont triés dans des centres de tri adaptés où en fait on arrive à séparer chaque matière. Donc on va retirer de ces centres du papier, du carton, des métaux avec les emballages type boîte de conserve ou canette en aluminium. On va également retirer des métaux quoi, ferreux et non ferreux et beaucoup de plastique aussi. Tous les emballages que nous consommons en fait finissent à la poubelle, recyclés et en fait on a une gamme de plastique très diversifiée qui aujourd'hui est énorme et qui complique un peu la tâche des industriels. Donc le recyclage nous permet d'avoir de nouvelles, ce qu'on appelle de nouvelles matières premières secondaires qui vont permettre de refabriquer d'autres produits. Donc en fait boucler la boucle. Le meilleur exemple c'est celui du verre. Parce que le recyclage du verre, qui est quand même très ancien sur notre territoire, fonctionne bien, même très bien. C'est-à-dire que, idéalement, on pourrait recycler 100% du verre. On le consomme, on le trie, on le fond, on refabrique de nouvelles bouteilles. Et voilà, la boucle est bouclée. C'est un exemple qui marche bien, mais qui ne s'applique pas encore, idéalement, à tous les autres matériaux.
Je vois que Flore Beringen veut réagir peut-être sur l'histoire de la consigne, non, c'est ça?
Exactement.
Ou pas?
Exactement.
Où sont les consignes d'autrefois? C'est-à-dire ces bouteilles, au lieu de les briser, qu'on récupérait, qu'on réutilisait telles quelles, quoi.
Exactement, parce qu'encore plus idéalement que recycler 100% du verre, il faudrait réutiliser 100% du verre. Une bouteille de lait, de bière peut se réutiliser entre 20 et 100 fois, suivant les caractéristiques, bien sûr. Et donc, ensuite, bien sûr, il faut la recycler. Mais avant toute chose, augmenter le nombre d'utilisations de la bouteille déjà produite, ça permet d'économiser la quantité d'énergie, d'eau, notamment, consommée dans le processus de recyclage, qui n'est pas neutre, en fait. Il faut vraiment s'en rappeler.
Allez, dernière question dans cette première partie, dans les dernières quelques minutes qu'il nous reste sur cette question des déchets. Alors, pour changer notre regard, il faut les réduire à la source. Mais alors, zéro déchet pour demain. Utopie, réalité à portée de main, Flore Beringen et puis Christiane Duquesnoy.
Alors, on nous pose souvent la question, puisque notre association s'appelle Zero Waste, et donc ça veut dire zéro déchet et zéro gaspillage.
Oui.
Le zéro déchet, est-ce que c'est pour demain? Je ne sais pas, en fait, 0,000, je ne sais pas si c'est pour demain ou même après-demain. Par contre, ce que je sais, c'est que environ 90% de notre poubelle individuelle, on peut la réduire. Le problème, c'est qu'au prix, c'est au prix de quand même pas mal d'efforts si on veut le faire tout seul. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que responsable associatif, c'est pas tellement de savoir comment on va pouvoir réduire les 10% restants, mais surtout de savoir comment on va pouvoir rendre cette réduction de 90% accessible à tout le monde et relativement facilement pour qu'on ait un vrai impact.
Alors, est-ce qu'il y a quand même quelques recettes ou au moins qu'on peut donner là des...
De recettes applicables individuellement.
Oui.
Schématiquement, oui, la poubelle, c'est 3/3. C'est 1/3 de biodéchets, 1/3 d'emballage et puis 1/3 de tout le reste. Les biodéchets, eh bien, on peut composter. On peut commencer à lombricomposter ou à composter chez soi quand on a la chance d'avoir un jardin. Les emballages, on peut les réduire en décidant d'acheter en vrac, en décidant d'aller au marché plutôt qu'au supermarché. Et puis après, pour tout le reste, il y a plein de petites choses à faire, notamment, par exemple, ne pas acheter neuf. Essayer d'avoir systématiquement le réflexe de l'occasion, de l'emprunt, de la location. Il y a plein de dispositifs à utiliser avant de se précipiter dans un achat.
Alors, pour rebondir sur le compost, que je vois qu'il y a des questions, y compris dans le studio du côté de la technique, on me dit, mais alors si on installe un système de compostage dans son appartement, est-ce qu'on peut partir en vacances et laisser les vers faire leur office?
Oui, pendant au moins 3 semaines, 1 mois, ils peuvent se débrouiller tout seuls.
3 semaines, 1 mois.
Mais ils sont autonomes, après, les vers, c'est bon.
Bon, donc Christiane Duquesnoy sur cette question-là.
Bah, oui, bah, je sais pas.
La question
si
des zéro déchet.
Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est... Une utopie, c'est bien, hein, c'est un beau projet.
Oui,
il faut arrêter de voir
choses.
Les utopies comme des choses un peu de rêveurs et qui n'auront aucun avenir. Non, une utopie, c'est vraiment ce qui nous tire vers l'avenir. Et l'avenir, c'est, voilà, il sera ce qu'on veut en faire. Et puis, zéro déchet, c'est pas qu'une question de citoyens et de déchets ménagers. Hein. Ça concerne l'ensemble de la société, et il est souhaitable d'aller vers des économies de plus en plus circulaires. Et là aussi, c'est une très très belle utopie qui nous mobilise.
Et la règle des trois R, hein, réduire, réutiliser, recycler. Bon, ben, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. Je rappelle vos ouvrages, Christian Duquesnoy, Les déchets du Big Bang à nos jours, livre édité chez Quae. Flore Berlingen, vous êtes co-auteur du livre Le scénario Zero Waste, paru aux éditions Rue de l'Échiquier. Et puis Tristan Turlan, Les déchets, collecte, traitement, tri, recyclage, livre édité chez Duno. Et vous restez avec nous, bien évidemment, suite de notre émission sur France Culture, toujours en direct et en partenariat avec le service Planète Science du journal Le Monde et lemonde.fr. Et lemonde.fr, d'ailleurs, sur lequel vous pouvez notamment découvrir cette semaine l'article signé Pierre Lehire, On ne nous atomisera jamais, un article sur l'opposition qui s'enracine à Bure contre le projet de cimetière poubelle pour le nucléaire français.
À Versailles, sur cette avenue, le naturel revient au galop. Fini les engrais et pesticides chimiques, depuis 6 ans, les 85 jardiniers emploient la binette et la désherbante thermique.
Et avec le changement de climat, elles sont déjà en train de repartir.
Désormais, le couloir écologique et les herbes graminées un peu folles remplacent les classiques parterres fleuris, un changement de culture et de plantes.
On a changé aussi du coup notre fleurissement en passant avec un fleurissement à base de plantes vivaces, dites pérennes, qui demandent moins d'entretien à une période de l'année et moins de plantation au moment où le désherbage est plus important.
Une démarche du tout bio qui, au début, pouvait être plus onéreuse pour la ville.
Au départ, ça coûte un peu plus cher et puis ensuite, vous avez des économies qui arrivent. Mais c'est vrai que si on veut, dans le court terme, penser uniquement au terme d'argent, on reste sur les anciens systèmes dont on connaît tous les effets négatifs, y compris financiers, sur le moyen et long terme.
Les écologistes défendent l'obligation de ne plus utiliser de chimiques dans les villes, mais avec un regret.
Il est vrai que les mesures viennent un peu tard, puisque l'horizon 2020 pour les collectivités locales et 2022 pour les particuliers nous semble quand même lointain.
Seconde partie, les échos de la Terre, avec aujourd'hui au cœur de nos préoccupations de terrain, l'interdiction d'utiliser les pesticides dans les collectivités locales et dans les lieux publics depuis le 1er janvier 2017. Et vous venez d'entendre un extrait du reportage diffusé le 23 janvier 2014 sur France 3, et un reportage tourné à Versailles, ville pionnière de cette démarche depuis 2008, avec les témoignages de Cathy Morin, responsable des espaces verts et parcs de la ville, le député-maire François de Mazières, et puis François Veillerette avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directeur et porte-parole de Génération Future, et à nos côtés également Nicolas Devers. Bonjour.
Bonjour.
Directeur adjoint des services techniques de Grand Paris Seine-Ouest. Alors peut-être un petit rappel, hein, puisque là j'ai dit que depuis le 1er janvier, donc interdiction d'utiliser des pesticides dans les collectivités locales et lieux publics. Rappel de cette loi peut-être et de son origine. François Veillerette.
Oui, mais justement, dans l'extrait que vous venez de passer, je me plaignais que l'interdiction pour les collectivités donc, d'utiliser des pesticides de synthèse était trop tardive. En janvier 2020, pour une fois, les organisations non gouvernementales comme la mienne ont été entendues, puisqu'au 1er janvier de cette année, donc, les collectivités locales ne pourront plus utiliser ces pesticides de synthèse dans leurs espaces publics. Alors ça vient d'un petit peu loin, ça vient de... déjà, si on va aller loin, d'une commission d'enquête au Sénat, hein, qui en 2012-2013 a bien travaillé, fourni un rapport qui finalement a permis aux sénateurs, après Joël Labbé, ayant travaillé avec ses collègues de partis politiques différents.
Donc Joël Labbé, sénateur du Morbihan.
Voilà, de trouver une majorité pour justement voter sa proposition d'interdiction au 1er janvier 2020 de ces pesticides dans les collectivités locales. Alors il aurait souhaité, lui, que ça ait lieu avant 2020, mais il a dû négocier une date pour trouver cette majorité. Et après, donc, dans un deuxième temps, une nouvelle loi pour la transition énergétique a avancé cette date sous l'impulsion de l'actuel ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Donc voilà, aujourd'hui on y est et on s'en félicite.
En tout cas, on y est pour tout ce qui est espace public, collectivité. Pour les particuliers, il y a quand même déjà une date arrêtée, je crois.
Alors oui, pour les particuliers, l'interdiction aura lieu en 2019. Là aussi, la date a été avancée de 3 années, de 2022 à 2019. Et puis oui. Aujourd'hui, déjà, les produits qui seront interdits dans 2 ans ne sont plus disponibles en libre service. J'ai déjà été faire quelques petites tours dans les jardineries, supermarchés de ma région. Et c'est, voilà, c'est appliqué pour ce que j'en ai vu. Il y a des produits qui sont maintenant sous clé dans des armoires. Et bien évidemment, ça va réduire le volume vendu. Parce que quand il faut, même si on est un peu accro aux désherbants chimiques, il faut vraiment être accro pour aller chercher un vendeur à l'autre bout du magasin, lui demander d'ouvrir l'armoire. Donc ça va dans le bon sens. C'est à la fois progressif, mais à la fois rapide, puisque voilà, les communes et les collectivités locales, c'est aujourd'hui, et les jardiniers, c'est demain.
Avec des moyens de contrôle ?
Alors, les moyens de contrôle, ça, c'est la question. Nous, on fait notre boulot d'association, on va aller contrôler, on va demander à nos adhérents d'aller vérifier chez eux que c'est bien appliqué. Maintenant, les moyens de contrôle sont ceux de l'État, et on sait qu'ils ne sont pas pléthoriques. Et, on a d'ailleurs alerté sur cet état de fait. Mais évidemment, que je crois que les citoyens seront vigilants aussi.
Donc, il y a encore un travail des associations,
voilà,
peut-être, pour au moins
travail des citoyens organisés en association et des particuliers est essentiel pour faire remonter toute anomalie qui serait constatée.
Nicolas Devert, on entendait le reportage donc du début de cette deuxième partie tournée à Versailles. Il y a des municipalités qui ont été pionnières, Versailles, Strasbourg, Mont-Sartou, Paris. Et donc concrètement, même avant ce 1er janvier 2017.
Oui, maintenant il est vraiment, je dirais, d'usage dans les services techniques de ne plus utiliser de produits pesticides. S'agissant du territoire de Grand Paris Seine-Ouest, donc qui regroupe 8 communes sur le sud-ouest parisien, c'est déjà une action qui est engagée depuis 2008 sur les espaces verts, donc il n'y a plus du tout d'utilisation de pesticides. Et puis, comme l'établissement public est en charge également de la propreté, on en parlait il y a quelques minutes, en 2015, lors de la renégociation en fait des marchés, il a été aussi mis en place le fait de ne plus utiliser de pesticides pour désherber sur l'espace public.
Alors qu'est-ce que ça change quand même dans la façon de traiter ces espaces verts, de les concevoir concrètement ?
En gros, ça change tout parce que ça change, je dirais, les mentalités et les usages qui étaient ceux qui ont été mis en place depuis limite l'après-guerre, c'est-à-dire à partir du moment où on était encore dans l'agriculture, dans une logique productiviste, avec une utilisation d'engrais qui permettait d'augmenter les cultures. Là, on est vraiment dans une logique, au contraire, où on est tourné vers l'environnement, on essaye d'avoir une vision beaucoup plus écologique et un entretien beaucoup plus souple du territoire. Donc ça change les mentalités vis-à-vis des jardiniers, ceux qui opèrent en tout premier lieu, ceux qui entretiennent l'espace public. Donc là où ils utilisaient depuis 30 ans finalement des produits pesticides, on les accompagne, on les forme et on incite du coup depuis maintenant de nombreuses années à ne plus du tout utiliser de pesticides.
Donc un jardinage, j'ai envie de dire, éco-responsable et en même temps un jardinage différencié parce que il faut pouvoir associer des plantes ou des espèces qui vont ou éviter tel ou tel travers et permettre de ne pas utiliser les fameux produits chimiques.
Oui, voilà. Donc il y a toute une technique en fait alternative qui se met en place pour éviter à chaque fois l'utilisation. Ça passe par exemple par le fait d'augmenter la hauteur des tontes au niveau des pelouses. On réduit également donc les fréquences. On supprime progressivement tout ce qui est arrosage automatique. On stoppe donc les engrais dans les modes de culture et donc du coup la pousse et la croissance des plantes est moins importante. Donc sur un gazon, finalement, vous allez gagner au niveau de la fréquence de passage, le gazon poussant moins, on a moins le besoin finalement de tondre. Également, il y a l'utilisation de plantes vivaces qui viennent se substituer petit à petit dans les fleurissements, notamment à tout ce qui est plantes annuelles, plantes bisannuelles. Donc on change le fleurissement. On utilise des plantes couvrantes qui permettent également
de masquer ce que le regard trouve être des mauvaises herbes, finalement, voilà, alors que les mauvaises herbes ne sont pas si mauvaises. Hein, voilà. François Vigrette.
Oui, tout à fait. Elles sont mauvaises que le regard qu'on veut bien y porter. Oui, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a vraiment une grande inventivité de la part des professionnels qui résonne tout à fait globalement. C'est-à-dire que il y a déjà des communes qui ont démarré il y a longtemps, vous l'avez dit, ces efforts-là. D'ailleurs, on les a, nous, récompensés à travers une opération qu'on appelait Ville et Village sans pesticides. On a remis un prix à des communes de diverses tailles qui sont partis donc bien avant la loi, hein, il y a déjà quelques années, et on a voulu récompenser ces personnes qui ont montré la voie, qui aujourd'hui font, je n'en doute pas, que cette interdiction du pesticide va être voilà pour tout le monde. Oui, cette grande inventivité, elle vient d'abord d'une de la construction de systèmes de gestion des espaces qui sont complètement différenciés. On ne va pas gérer, par exemple, la place devant la mairie ou la préfecture de la même manière qu'on va gérer des espaces interstitiels en bordure de route ou aux franges de la cité. Et puis, on va tolérer des herbes qui, effectivement, ne sont pas intrinsèquement mauvaises, mais qui peuvent être, quand on les laisse pousser et fleurir, des herbes aussi qui vont décorer. Il y a aussi de l'éducation qui est faite, parce que cette espèce de phobie des herbes...
De la mauvaise herbe.
Voilà, elle était quand même assez tenace et culturelle, c'est-à-dire
que l'on rencontre sur les trottoirs, voilà, aussi, ça veut dire que là...
De mauvaises herbes, on disait que les espaces étaient sales parce qu'il y avait de l'herbe. On rencontre d'ailleurs les mêmes expressions en agriculture, ce champ est sale parce qu'il y a trop mauvaises herbes au milieu du blé. Tout ça, c'est de l'ordre, c'est culturel, c'est un jugement de valeur. Alors bien sûr, il faut pouvoir quand même voir la route, les croisements de route, donc il y a des choses à gérer comme ça pour la sécurité, mais ça doit être géré de manière complètement différenciée en fonction des différents impératifs. Voilà, d'absence totale ou partielle ou d'herbe ou pas. Et donc ça, c'est vraiment une mission qui fait appel à l'intelligence des équipes. Et je crois d'ailleurs qu'on a beaucoup nous tourné en France pour voir comment fonctionnaient ces communes, par exemple. Et on s'aperçoit que ça redonne du sens aussi au métier des professionnels qui ne sont pas là uniquement comme des applicateurs de produits chimiques, mais qui ont un métier qu'ils voient maintenant récompensé par la population. Alors ça râle bien un peu par-ci par-là au début, personnes qui ont des habitudes, mais tout ça change.
Penser l'association des plantes.
Et les gens comprennent bien que derrière tout ça, il y a aussi une question de santé publique. C'est-à-dire que les produits qui appliqué sur la voie publique et dans les espaces publics où viennent jouer les femmes enceintes, les enfants. Beaucoup de ces produits sont des produits neurotoxiques ou perturbateurs endocriniens. On sait maintenant
que le glyphosate, les néonicotinoïdes,
voilà, etc. Tout cela est neurotoxique. Donc voilà, gérer les espaces publics en respectant l'environnement et la santé, c'est une belle mission pour ces personnels.
Nicolas Devers, finalement, cette nouvelle façon de gérer ces espaces publics et la santé, hein, comme disait François Veillerette, c'est aussi une nouvelle économie, de nouveaux emplois, parce qu'il y a tout un travail manuel aussi d'arrachage des herbes sur la voirie qui va être opéré. Est-ce que là aussi, il y a une économie qui se met en place ?
Alors, oui, bien sûr, il y a une économie, parce qu'il est bien sûr beaucoup plus long de devoir désherber manuellement, mécaniquement, que de devoir désherber chimiquement. Maintenant, simplement, je dirais, dans la balance, c'est pas un objectif financier qui va être en tout premier lieu regardé. C'est plutôt justement de regarder l'intérêt écologique à chaque fois de cette nouvelle façon d'opérer. Il y a des emplois qui sont créés, par exemple s'agissant de GPSO, en période estivale, et notamment au mois de mai-juin, lors de la pousse...
Donc GPSO, peut-être rappelé, c'est Objectif Ville Respirable en 5 ans, c'est ça ?
Voilà, et c'est donc en tout cas Grand Paris Seine-Ouest pour l'établissement public.
Exact.
En mai-juin, lors de la pousse vraiment des mauvaises herbes, mais qu'on pourrait appeler les plantes adventices, qui est le juste terme en fait, ou en tout cas des plantes spontanées, qui viennent pousser dans tous les interstices, sur les trottoirs, au pied des arbres, etc. Nous avons des moyens supplémentaires prévus dans nos contrats pour justement pouvoir contrôler ces plantes, ne pas les laisser pousser de façon trop importante et à chaque fois avoir une action juste sur ce patrimoine végétal.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a prévu aussi pour accompagner les citoyens, les habitants et les aider dans cette transition d'ici à 2019 ou sur vos sites, aux uns et aux autres, parce que voilà, tous ne sont pas des professionnels de l'association de telle ou telle plante. Concrètement, François Veillerette.
Oui, alors effectivement, les associations font leur part du boulot, c'est-à-dire que on va continuer à mettre en avant les exemples des communes qui ont déjà une expérience dans le domaine. Donc on peut former par l'exemple. Bon, maintenant, il faut aussi que l'État prenne ses responsabilités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aura une interdiction pour les communes et pour les particuliers, il faut favoriser aussi une communication ad hoc. Il ne suffit pas de pondre un texte en disant « voilà, maintenant, garde à vous, je ne veux voir qu'une seule tête ». Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des habitudes qui ont été prises pendant longtemps, trop longtemps. Il faut communiquer comme d'ailleurs ça se fait sur la dangerosité des pesticides au niveau de l'État. Dans le cadre du plan Ecophyto, il y a des communications sur la dangerosité, mais il faut faire aussi des communications publiques sur les alternatives.
Et je renvoie aussi sur le site www.seineouest.fr où on peut trouver le guide du jardin écologique utile, hein, je pense. Nicolas Devers a signalé, François Veillerette, je signale aussi deux de vos livres, Pesticides, révélations sur un scandale français et puis Perturbateurs endocriniens, la menace invisible. Toutes les informations et les liens sont à retrouver. Les livres conseillés aussi, la revue de Web Environnement, sont à retrouver sur le site franceculture.fr, rubrique de cause à effet et sur le site internet du journal Le Monde. Vous pouvez réécouter l'émission la télécharger, nous suivre sur Twitter, hashtag DCAFM. Merci à tous pour votre présence, pour cette émission très enrichissante sur les déchets. Merci la fidélité de nos auditeurs. Et puis la semaine prochaine, je vous signale que nous regarderons du côté du théâtre de l'écologie et de ses vrais acteurs, citoyens de la société civile, et vous peut-être d'ailleurs.